Bon, demain, les Américains vont voter. Remarque qu'ils ont déjà commencé par millions. Là, vote par anticipation, vote postal, mais c'est demain la journée d'élection. Puis de ce temps-là, avec la pandémie, l'incertitude électorale, disons qu'on regarde l'évolution des marchés boursiers d'un coin de l'œil. Là. On perd pas trop de temps parce que c'est pas tout à fait bien bon.
Ben, en fait, c'est que, disons que les marchés boursiers n'aiment pas l'incertitude. Hein. Ça prend le temps aux marchés boursiers de déglutir l'information, de digérer l'élection. Et Trump avait amené des baisses d'impôts, avait amené la possibilité de, dans une année, d'amortir fiscalement des dépenses en capital. Donc, avait donné, disons, une aide artificielle aux entreprises. Et les entreprises ont peur, des fois, de perdre certains avantages avec une élection. Et évidemment aussi, toute l'incertitude du climat social avec ça. Mais ce qui est drôle, c'est que, une fois que, peu importe que ce soit Trump ou Biden qui gagne, il en demeure que les tensions avec la Chine sont encore là. La pandémie est encore là. La menace de la hauteur de la dette américaine est là. Donc, tous les problèmes qui existaient existent encore. Donc, les élections, c'est beaucoup de bruit. C'est du bruit qui va faire peur ou mal à nos placements, dépendant de comment ça va. Mais ce qui est drôle, Paul, c'est que c'est tellement un enjeu qu'il y a même beaucoup de paris boursiers présentement. Je sais pas si c'est parce que dans Biden, il y a le mot bid, donc pari. Mais pour vrai, il y a beaucoup de paris boursiers. On parle de 260 millions de dollars de paris jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce que tu veux dire des paris?
Des paris pour dire qui va gagner.
Ah! OK.
Donc, imagine, si c'est si enlevant au niveau du pari, t'imagines-tu au niveau boursier? Parce que les résultats des élections s'ajoutent à la mise à jour de la Réserve fédérale, s'ajoutent à un rapport d'emploi, tout ça dans la même semaine. Donc, il risque d'y avoir de la volatilité dans la semaine. Et on sait que les démocrates sont reconnus pour être plus interventionnistes que les républicains. Et donc, on a l'impression que les électeurs pourraient influencer le vote et donc influencer ce qu'on donne aux entreprises et en impôts. Et donc, ça peut créer de l'agitation. Mais quand tu as une planification long terme, tu n'es pas supposé de miser sur la bourse à court terme. Et donc, faut être capable de regarder le bruit passer pendant quelques semaines. Mais on peut pas dire que ça va être bon nécessairement parce que si on regarde l'historique de la bourse depuis un an, au niveau du S&P 500, donc le gros indice américain, on est revenu exactement, Paul, exactement où on était le 1er janvier. On a vécu les montagnes russes, hein, un peu comme le monstre à la ronde. Ça a monté, ça a descendu beaucoup, ça a remonté, puis là, on revient où on était le 1er janvier. Donc, quelqu'un qui cligne des yeux au 1er janvier, qui réouvre les yeux présentement, ses placements boursiers américains dans un ordre indiciel sont relativement égaux. C'est fou quand même, hein? Après tout le dérangement. Bon, il faut juste être capable d'absorber ça, de la volatilité.
De vivre, oui, avec la...
C'est pas le fun.
Non. Mais tu sais, comme je disais tantôt, on regarde ça du coin de l'œil, on va pas trop s'attarder non plus. Qu'est-ce qu'on fasse?
Ouais, mais tu sais, ceux qui font de l'anxiété boursière peuvent faire l'erreur de tout vendre quand ça chute, puis après ça, racheter trop tard et perdre la remontée. Mais bon, ça fait partie de la vie.
Une auditrice m'a écrit, son conjoint passe ses journées à regarder l'évolution de ses titres.
Mais ça, c'est comme à regarder pousser son gazon. Je veux dire, tu perds ton temps, tu le coupes dans une semaine.
Ben, tu sais, c'est, oui. Maintenant, et ça arrive malheureusement souvent, là, la maltraitance à l'endroit des personnes âgées, mais il n'y a pas que la maltraitance physique, il y a la maltraitance économique.
Et tu sais que moi, Paul, la maltraitance financière, ça me touche plus parce que Marc Tizon soulève le point qu'il va y avoir une loi qui s'en vient pour changer ça un peu, mais en temps de pandémie, il y a des gens qui sont plus vulnérables au niveau psychologique, qui ont besoin de plus d'aide financière. Et, disons, la tentation d'aller tricher ou d'aller profiter d'un parent est plus grande. Et donc, dans les faits, on dit qu'il y a 11 000 Québécois de 65 ans et plus qui auraient subi une maltraitance financière. Mais ce qui est épouvantable de maltraiter financièrement quelqu'un, c'est-à-dire lui prendre de ses actifs quand elle est âgée, ben c'est-à-dire il y a l'impossibilité de se refaire parce que tu ne travailleras plus comme avant. Tu peux pas profiter de 4-5 décennies pour faire croître ton capital et tu ne peux pas être une exposition à l'inflation. Et donc, quand tu voles une personne âgée, qu'elle soit dans ta famille ou non, même si tu te dis c'est pas grave, elle a 500-600 000 de placement, tu lui voles sa vie parce qu'elle ne se refera jamais. Alors, il y a souvent un biais dans la perception des gens de regarder une personne âgée, de dire ah, elle a 500-600 000. Ouais, mais 500-600 000 pour vivre pendant 20 ans, c'est pas tant que ça. Et donc, quand tu lui dis « Ah, je vais t'emprunter, maman, 30 000, je vais te le remettre », puis tu y remets jamais, c'est une grave violence. Mais c'est une violence tellement cachée, tellement par en dessous. Et là, on dit qu'il y aura des modifications à la loi pour permettre d'avoir une reddition des comptes. Ça veut dire que si vous êtes en charge de quelqu'un qui a perdu disons, toute faculté de se gérer, vous ne devrez pas juste rendre des comptes à sa mort, mais à chaque année à quelqu'un d'autre. Et je trouve ça intéressant parce que ce projet de loi-là, ce qu'amène Paul, c'est l'obligation d'avoir collusion entre deux personnes qui s'occupent d'une personne âgée pour lui voler ses actifs. Mais là, il y a la maltraitance financière, Paul, que j'appellerais légale, mais que j'aime encore moins.
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est le chantage.
Ah!
Mettons, Paul, je suis ton fils. Paul, tu vas pas laisser ton fils avoir des problèmes financiers comme ça. Hein? Être parent, Paul, c'est être parent pour la vie. Puis quand on met un enfant au monde, mais c'est pour l'aider dans les moments difficiles.
Mais il y a toujours une limite. Ce que je veux dire par là, je pense que j'ai déjà compté en nom, mais je vais le répéter. Vas-y. Parce que ça tombe bien. Quelqu'un que je connais, que les gens connaissent, mais je ne veux pas identifier. Okay. Il vient encore en aide à son fils qui a 52 ans. Comprends-tu, là? Puis il fait, là, puis il l'a fait dans le passé, là. Il recommence. Tu peux comprendre que tu es là pour aider tes enfants, puis tu essaies de les aider durant les périodes où ils en ont le plus besoin, puis ça, c'est correct, là, d'aider, pas attendre que le bonhomme meure pour. Mais quand tu arrives à 52, 53 ans, Pat, peux-tu me cautionner mon prêt auto?
Tu sais?
Non.
Au salon du livre, il y a des parents qui sont venus me voir, puis ils disent, écoute, notre fille, elle a ton âge. Non, à l'époque, c'était comme 36, 37 ans. Et il dit, ça fait trois fois qu'on paye ses dettes, là. Chaque fois qu'on paye ses dettes, elle voit ça comme un reset, comme un jeu Nintendo que tu payes sur le petit bouton, tu recommences ta game et puis recommence dans le même pattern. Puis là, elle revient nous voir. Puis là, nous autres, mais elle réalise pas que quand on lui donne, nous autres, 20 000 nets, là, on vient lui donner 35 000 peut-être de notre brut, là, dépendant de notre taux d'impôt. Donc, elle dit, te rends-tu compte de l'effort qu'elle nous demande? Puis nous, comme parents, ben elle profite du fait qu'on est incapable de lui dire non parce que c'est notre fille. Mais à un moment donné, comme parent, t'as envie que tes enfants se prennent en main, puis là, à un moment donné, l'adolescence finit, hein? À 38 ans, il est peut-être temps de couper le cordon,
ça
mais
serait bien
c'est
d'être
difficile.
Autonome.
Ouais. C'est difficile.
Merci.
Salut.
Salut, bonne journée. 7h21.